Rebelle Hebdo, le magazine des luttes sociales et des alternatives politiques et économiques dans le bassin minier et au-delà.
Micro Rebelle Hebdo, c'est chaque semaine sur micro-rebelle.fr.
N'hésitez pas à nous contacter en nous envoyant un courriel à contact@micro-rebelle.fr.
Vous pouvez nous envoyer vos actualités toujours par courriel à contact@micro-rebelle.fr.
Retrouvez toutes nos émissions sur le site de notre web radio micro-rebelle.fr.
Micro Rebelle Hebdo est diffusé en direct chaque vendredi de 18h à 19h sur micro-rebelle.fr et rediffusé sur les ondes de Radio PFM 99.9, radio associative libre et sans pub, et de Radio Plus 104.3, la radio du pays minier et de l'Artois.
Et bienvenue donc pour cette nouvelle édition de Micro Rebelle Hebdo. Nous sommes en direct des studios de Micro Rebelle à Liévin et nous nous retrouvons chaque vendredi de 18h à 19h. Cet enregistrement est public. Si vous souhaitez intervenir à l'antenne à propos de l'actualité dans le bassin minier ou concernant les initiatives dans lesquelles vous êtes investi, n'hésitez pas, les portes du studio vous sont grandes ouvertes chaque vendredi à partir de 18h. Vous pourrez ainsi rencontrer les animatrices et animateurs de Micro Rebelle, échanger, discuter de l'actualité et donner des idées de reportage. Par ailleurs, chaque Micro Rebelle Hebdo est rediffusé par plusieurs radios hertziennes associatives, membres de la FRANF, la Fédération des radios associatives du Nord de la France. C'est notamment le cas de Radio PFM 99.9 et de Radio Plus 104.3. Nous sommes deux aujourd'hui en studio. Je suis Lucien, bénévole militant à Micro Rebelle, et je suis avec Luc, également de Micro Rebelle. Luc est salarié à Micro Rebelle. Après ces rapides présentations, nous revenons sur l'actualité, notamment dans le bassin minier, à l'occasion d'une revue de la presse locale cette semaine. Nous commençons cette revue de presse avec l'hebdomadaire L'Avenir de l'Artois et son édition dans le bassin minier, édition du Lensois. Une pleine page est consacrée à l'extension de la zone de l'Alouette. C'est une zone industrielle étendue entre les communes de Bully-les-Mines, Aix-Noulette et Liévin. On la voit quand on roule sur la rocade minière en venant de Bruay, vers Liévin. Plusieurs millions d'euros ont déjà été consacrés à la réhabilitation de cette zone qui vient de s'agrandir de 81 nouveaux hectares. Et d'ores et déjà, de nouvelles implantations d'entreprises sont attendues entre 2019 et 2020. On parle de l'arrivée de La Poste, avec une plateforme multiflux, de Mercedes, avec une concession de véhicules industriels, et de Iveco, pour une activité de maintenance poids lourd, et d'autres entreprises encore. Ce seraient 1500 emplois qui seraient ainsi créés. Cette nouvelle zone d'activité semble faire la fierté des élus locaux. La Voix du Nord et l'Avenir de l'Artois cite un élu local qui aurait dit « Il faut oser de temps en temps, il faut savoir parier pour réussir ». On peut regretter que cette information ne fasse l'objet d'aucun recul critique, comme si le simple fait de créer des emplois se suffisait à lui-même, sans discussion aucune. Il serait pourtant intéressant d'évoquer les activités qui vont se créer sur cette zone industrielle. Est-ce que ce sont des activités utiles pour le territoire, ses habitantes et habitants? Ou alors, à l'opposé, est-ce que ce sont des activités qui vont enrichir les propriétaires des capitaux et des moyens de production, y compris par le renforcement de l'exploitation des travailleuses et travailleurs, par une précarisation renforcée des hommes et des femmes du bassin minier, qui ne sont pourtant pas les derniers en matière de précarisation? Il serait temps que nos moyens d'information locaux, ainsi que les élus du territoire, osent aborder ces questionnements, plutôt que d'applaudir la moindre implantation d'entreprise, la moindre création d'emplois. Une autre question mérite également d'être posée. Le développement de toutes ces activités industrielles se fait au prix de la destruction de centaines d'hectares de terres agricoles. Ne pourrait-on pas également se poser la question suivante? N'est-il pas urgent d'aller vers l'autonomie du bassin minier en matière alimentaire? Et cette autonomie alimentaire ne passe-t-elle pas par l'installation, ou plutôt la réinstallation, de dizaines de paysans sur le territoire du bassin minier? Et pour cela, ne faut-il pas préserver les terres agricoles du territoire? Toujours dans l'avenir de l'Artois, c'est la mairie de Salomine qui réaffirme son engagement pour la gratuité des transports en commun, et notamment pour le BHNS, le bus à haut niveau de service, qui occasionne actuellement tous les travaux dans le bassin minier. Micro-Rebelle a déjà eu l'occasion de donner la parole aux défenseurs de la gratuité des transports en commun. La ville de Salomine déclare notamment « La gratuité représente un coût, mais il est possible, au niveau des intercommunalités que sont Artois-Com, Béthune-Bruay, la CAL, Lens-Liévin, et la CAC, Hénin-Carvin, de réorienter la politique financière pour mettre en place une tarification attractive. Cette bagarre pour la gratuité des transports en commun sur le territoire n'en est sans doute qu'à ses débuts. Micro-Rebelle aura l'occasion d'y revenir. On est toujours dans l'édition bassin minier de l'avenir de l'Artois, avec la ville d'Avion qui adopte une motion pour défendre la santé. Jean Létocard, adjoint au maire, et lui-même infirmier aux urgences de l'hôpital de Lens, estime ainsi que sur le secteur, il manque 250 médecins généralistes et 1000 spécialistes. Il poursuit en déclarant « Dans le bassin minier, nous sommes les derniers en termes de capacité médicale. Notre région est celle où l'on meurt le plus jeune. » Il estime par ailleurs que l'offre médicale du futur hôpital de Lens est insuffisante et ne permettra pas de corriger la situation. Il manquerait environ 300 lits pour une offre de soins de qualité. Toujours dans l'avenir de l'Artois, nous partons maintenant à Vermelles, qui vient d'accueillir le salon TechniDays, à l'initiative de la coopérative agricole Unéal. Le salon a rassemblé 2500 agriculteurs venus du nord de Paris pour visiter les stands consacrés à la technologie pour le monde agricole. Il est question ici, selon les termes de l'avenir de l'Artois, de services innovants pour mieux piloter son exploitation en optimisant la productivité. Le tout dans le respect de l'environnement, précise le journal. Ce sont donc des stations météo dernier cri ou encore des robots qui sont ainsi présentés aux visiteurs. On peut une nouvelle fois regretter la mise en avant d'un événement sans aucun recul critique. C'est comme si le simple fait d'écrire les mots « innovation » ou « nouvelle technologie » empêchait toute remarque. Le titre de l'article de l'avenir de l'Artois est d'ailleurs significatif. Ce titre, c'est « La technologie au service de la ferme ». Pourtant, on ne peut s'empêcher d'être interrogatif et de se poser quelques questions, de se faire quelques réflexions. Premièrement, il y a de moins en moins d'agriculteurs. Les exploitations sont de plus en plus énormes. Avec les technologies du salon TechniDays, le phénomène va s'accentuer. Est-ce vraiment ce que souhaitent les agriculteurs et les habitants et habitantes du territoire? Deuxième type de réflexion, les campagnes se désertifient. Le monde agricole nous apparaît de plus en plus éloigné. Les paysans connaissent un taux de suicide élevé. Est-ce vraiment la technologie qui peut changer cette situation? Les causes du malaise agricole ne sont-elles pas à rechercher ailleurs, dans le productivisme, dans la concurrence entre tous, dans la déshumanisation des exploitations agricoles? Avec des agricultrices et des agriculteurs qui deviennent concurrents les uns des autres, au lieu de l'entraide traditionnelle. On vous a proposé récemment un reportage que Micro-Rebelle a réalisé l'an dernier concernant le monde agricole. On va vous en proposer un petit extrait. C'est une interview de Jean-Luc Malpeau, paysan en retraite, qui analyse les mutations du monde agricole. Voici ces quelques extraits.
Mais il y a quand même deux grands pôles vers lesquels s'orientent les agriculteurs, des pôles contradictoires. Il y a un pôle qui est un pôle très intégré à l'industrie. On produit de la matière première pour l'industrie, au moindre coût. L'objectif est de fournir de la matière première à l'agroalimentaire essentiellement, un peu, on en parle moins, mais pour fournir de l'énergie, et puis pour exporter. Et là, il faut produire au moindre coût sur des grandes structures avec très peu de travail, en fait. Le meilleur moyen de diminuer les coûts, c'est de diminuer le travail. Enfin, c'est ce qu'on dit, en tout cas. En tout cas, c'est comme ça qu'on fait. Et donc là, c'est une agriculture qui évolue vers une concentration forte des fermes et une intégration forte aux filières. D'ailleurs, quand on entend un certain nombre de responsables agricoles, que ce soit un responsable de coopérative, syndicat, la FNSEA, qui est quand même dans cette direction-là, très majoritairement, Depuis une bonne dizaine d'années, il parle très peu de la défense d'un modèle agricole, de la défense même du revenu agricole, il parle de la défense des filières. Alors, la filière, ça regroupe l'aval, donc ceux qui fournissent les matières premières à l'agriculture, donc les mieux placés, les plus connus, c'est les industries chimiques.
C'est les chimistes, oui.
Monsanto et tous ses copains, là. Et puis aussi ceux à qui on vend, c'est-à-dire l'agroalimentaire essentiellement l'agroalimentaire. Cette tendance-là, ce pôle-là de l'agriculture considère l'ensemble. On défend des filières, qui sont des filières capitalistes carrément, quoi. Donc, et donc il faut que l'agriculture s'adapte à ça, c'est-à-dire la concentration des moyens de production, plus de technologie. Alors maintenant, on commence à parler de drones. L'autre jour, j'entendais dans une émission à la télé, là, sur Arte, un intellectuel, hein, je crois, qui disait que maintenant, l'agriculture, grâce aux drones, va pouvoir faire de la meilleure qualité et mieux respecter l'environnement. Je sais pas comment, mais bon. Donc on voit bien que cette agriculture-là demande, puisqu'elle se base essentiellement sur de la technologie et donc des capitaux, est une agriculture qui va être de plus en plus financiarisée, c'est-à-dire dépendre de la finance. Puisqu'il faut emprunter, il faut financer tout ça. Et donc les comptes qu'elle aura à rendre, ce sera à la finance. C'est quand même le pôle majoritaire, même si tout le monde, même s'il n'y a pas tant d'agriculteurs que ça, qui consciemment veulent aller vers ça, mais c'est quand même la tendance majoritaire, parce que tout le système pousse dans ce sens-là. Alors c'est très valorisant, hein, on nous a tellement dit qu'on était des plougs, des cutéreux, des gens qui ne savaient pas parler, on sait tout juste si on savait lire, et tout d'un coup on se retrouve en train de gérer des trucs avec il y a des tracteurs où il y a 3-4 ordinateurs, moi j'ai jamais eu ce tracteur-là, mais, enfin, etc., on est quand même des... Il y a une sacrée promotion,
ouais.
Symbolique de ce point de vue-là. Alors que le côté attentif à la terre, avec tout ce que représente la terre, donc au niveau pas seulement symbolique, mais la vie du sol, etc., c'est pas tellement valorisé, alors que c'est bien plus intéressant et bien plus riche, et ça devrait être plus valorisant, mais quand on prend de la terre dans ses mains pour regarder comment elle est, c'est pas la même image que quand on tape sur un écran, quoi.
Eh bien, nous poursuivons cette revue de presse, toujours dans l'avenir de l'Artois, avec une pleine page consacrée aux 50 ans de l'assassinat de Marc Lanvin. Nous sommes le 29 juin 1968, soit il y a exactement 50 ans. C'est la veille du second tour des élections législatives qui font suite à mai 68. Marc Lanvin a 18 ans. C'est un jeune ouvrier communiste, ouvrier à l'usine textile de la Maille à Arras. Ce jour-là, Marc Lanvin accepte d'aider des copains socialistes, dont Roger Laurent, que l'Avenir de l'Artois a interviewé. Ils font un tour en voiture pour voir si les affiches de Guy Mollet, maire d'Arras et candidat de la gauche à Arras, sont toujours en place. Ils sont donc un groupe de jeunes dans deux voitures, deux DS. Il est 23h, l'équipage arrive à Achicourt et se retrouve face à une estafette d'autres couleurs d'affiches du camp adverse. Marc Lanvin descend de voiture pour parlementer. La porte de l'estafette s'ouvre. Marc est foudroyé par une balle de 7,65 tirée à bout portant. D'autres coups de feu de 22 longs rifles atteignent d'ailleurs la DS des militants socialistes. Les assaillants sont armés jusqu'aux dents. Marc Lanvin a été tué sur le coup. L'enquête et le procès qui a suivi à Saint-Omer en 1969 révèlent que les tueurs étaient des nervis recrutés par l'UDR, le nom de la droite de l'époque, et armés par le SAC de Marseille. Le SAC, c'est le Service d'Action Civique, fondé pour défendre les idées du général de Gaulle, créé par Pasqua et ses amis, et farouchement anticommuniste. Une foule très dense sera présente aux obsèques de Marc Lanvin le 3 juillet 1968. Une place d'Arras porte le nom de Marc Lanvin. Une plaque Rue Pasteur à Achicourt rappelle également son souvenir. Dans le bassin minier à Angres, l'ancienne maison des jeunes a porté le nom de Marc Lanvin pendant plusieurs dizaines d'années. Après sa destruction, une nouvelle salle a été construite et qui porte également le nom de Marc Lanvin. Nous restons dans la presse locale avec l'hebdomadaire Liberté Hebdo, et une pleine page consacrée aux ouvrières virées de l'usine Samsonite il y a 10 ans et qui ont monté un spectacle qui sera présenté cet été au Festival d'Avignon. Pour elles, ce spectacle, cette pièce de théâtre, c'est une façon de continuer la lutte et de raconter elles-mêmes leur histoire au théâtre. Cette pièce de théâtre s'intitule « On n'est pas que des valises ». Elles partent donc pour 3 semaines à Avignon à raison d'une représentation chaque soir. Liberté Hebdo rapporte les propos d'une des salariées. Cette pièce représente vraiment les réalités de notre combat. Elle a permis d'apprendre aux jeunes, comme aux moins jeunes, qu'on peut se défendre contre les patrons voyous et leurs actionnaires. C'est sans conteste une pièce de théâtre à voir. Pour ces ouvrières qui parlent d'elles-mêmes, de leur vie, et qui parlent également de centaines de milliers d'autres salariés, brutalement jetés à la décharge depuis des décennies. Une violence qui ne restera pas toujours sans réponse. Eh bien, c'est donc le moment de vous proposer une pause musicale. Comme toujours sur Micro Rebelle, c'est de la musique libre. Aujourd'hui, place à Rico da Alvarez et à son album « Exorcist de style ». Nous écoutons le 8e morceau de cet album. Il s'intitule « Complete Lobotomy ». Eh bien, une erreur de fichier nous oblige à changer de morceau à vous présenter. On va vous présenter un autre morceau de musique, hein, un morceau qui est mis en un morceau du groupe Effervescent. Effervescent, c'est un projet solo d'Andy Doran, compositeur, interprète et producteur. Ce monsieur fait tout lui-même, et il le fait bien. Pour preuve, cet album aux sonorités 60s, Excuses for the Common Man, dont le titre White Camaro est extrait. Au-delà des œuvres de Effervescent, Andy Doran écrit et enregistre de la musique pour films, vidéos, animations graphiques et publicités. Nous écoutons donc, en espérant cette fois-ci que ça marche, White Camaro.
Yeah.
sommes donc toujours sur Micro-Rebelle Hebdo et nous évoquons l'actualité et dans cette actualité, le passage de Didier Arpagès au LAG, le lieu autogéré du bassin minier à Liévin. Didier Arpagès est objecteur de croissance, il donne de nombreuses conférences sur le thème de la décroissance et il a par ailleurs écrit, avec Serge Latouche, un livre qui s'intitule « Le temps de la décroissance ». Pour sa venue au LAG, Didier Arpagès venait présenter son dernier ouvrage « Mourir au travail ?» Plutôt crevé. Micro Rebelle lui a tendu ses micros.
Eh bien, je suis actuellement, et depuis maintenant une huitaine d'années, on va dire, je suis retraité d'éducation nationale, puisque j'ai été professeur de sciences économiques et sociales. Voilà, donc ça signifie que pendant ma carrière de professeur, eh bien, j'ai véhiculé tout un discours. Bon, avec lequel, évidemment, j'étais pas, surtout vers la fin de ma carrière, j'étais pas tout à fait d'accord. Et j'étais finalement assez satisfait de pouvoir quitter le monde du travail, même si j'y ai trouvé quand même beaucoup de satisfaction en tant qu'enseignant, notamment dans la relation à mes élèves. Autrement dit, j'avais en bouche un texte auquel je ne croyais plus, puisqu'il me fallait parler de croissance, de libre-échange... de concurrence, de mondialisation. Il est intéressant évidemment d'en parler, d'initier les élèves, mais d'un autre côté, on est amené aussi à parler, à utiliser des outils avec lesquels on n'est pas toujours bien à l'aise. Voilà. Donc, je me suis tourné un peu par hasard, depuis que je suis à la retraite, je me suis tourné notamment vers l'écriture, la lecture, et ce qui a occasionné, en 2010, la sortie d'un petit bouquin écrit par en collaboration, je dirais, avec un de mes anciens professeurs qui est Serge Latouche, dont j'ai été l'élève et l'étudiant dans les années 70 à Lille, à l'université de Lille.
Alors justement, c'est vrai que si on fait une petite recherche sur Internet, oui. Si on tape Didier Arpagès, on a comme retour le fait que tu es objecteur de croissance.
Oui.
Tu donnes de nombreuses conférences sur le thème de la décroissance. Effectivement, on retrouve ton nom accolé à celui de Serge Latouche, avec lequel tu as écrit un livre qui s'intitule « Le temps de la décroissance ». Bref, tu es quand même intimement associé à la décroissance. Est-ce que tu peux, pour nos auditrices et nos auditeurs, rappeler ce qu'est la décroissance ?
Oui, bon, ben, je disais tout à l'heure que finalement, j'ai été prof et que donc j'ai utilisé un langage... qui me permettait évidemment de travailler et d'obtenir une rémunération. D'un autre côté, ce que j'aime bien dans l'expression objection de croissance, c'est qu'elle renvoie à l'objection de conscience. Et un objecteur de conscience, c'est quelqu'un qui refuse l'usage des armes. Et moi, j'ai tendance à dire et à répéter que je refuse aussi l'usage des armes du discours économique dominant. Un discours économique dominant qui met en avant le fait que la croissance est nécessaire, absolument indispensable. La croissance, en fait, est un mythe parce que, si on reprend les propos et la boutade d'un économiste américain, Kenneth Boulding, qui disait que finalement, ceux qui croient qu'une croissance infinie est possible sur une planète finie dans la mesure où elle a des limites, eh bien, ceux qui croient donc à une croissance infinie sur une planète finie sont des fous ou des économistes. Donc, on voit bien que le discours économique est ambiant et insupportable. Alors, donc, la croissance est un mythe, mais aussi c'est un dogme parce que finalement, elle appartient au discours libéral. On ne le dit jamais assez. Finalement, la croissance, c'est la croissance du capitalisme. Quand un journaliste parle de croissance, quand il nous dit, voilà, on a réussi cette année, l'économie française a réussi à atteindre 1,8, 1,9, 2,1% de croissance, on ne dit jamais 2,1% de croissance capitaliste. Or, là, on peut s'appuyer aussi, bien sûr, sur la théorie marxiste. Et ne pas oublier le fait que la croissance économique, c'est la croissance du capitalisme, c'est la croissance du capital, c'est l'accumulation du capital. Donc il s'agit évidemment pour nous, objecteurs de croissance, de remettre en cause cette logique-là et de laisser entendre que l'on peut par conséquent vivre autrement, on peut vivre beaucoup mieux, sans être enlisé dans cette croissance qu'on recherche à tout prix, mais qui masque en fait aussi un malaise, qui masque aussi un certain nombre d'inégalités, qui masque aussi comment dire, de la précarité, de la souffrance. Et on ne peut pas, pour reprendre effectivement les propositions de Boulding, les propos de Boulding, on ne peut pas continuer évidemment à vivre de manière démesurée, de produire de manière démesurée, de consommer de manière aveugle, en oubliant la question sociale et la question écologique.
Alors, on a effectivement envie de te poser plein de questions sur ce que tu viens d'exposer concernant la décroissance. Si tu en es d'accord, on va l'aborder au travers de ton dernier ouvrage, hein, donc « Mourir au travail plutôt crever », un titre que moi, personnellement, j'ai trouvé extrêmement sympathique et qui amène plein de questionnements, avec une espèce de contradiction dans ce titre. Je trouve ça tout à fait chouette. Alors, qu'est-ce qui t'a amené à écrire ce livre? Quels sont les constats que tu mets en avant? Et puis, finalement, qu'est-ce qui t'a motivé?
Alors, il y a, disons, deux raisons principales qui m'ont amené effectivement à parler de, comment dire, du travail et à choisir ce titre. Alors, petite parenthèse au sujet du titre, j'avais lu il y a quelques années un article dans Le Monde diplomatique rédigé par une personne dont je reprends aussi des analyses, qui s'appelle Daniel Dinhart, sociologue, qui avait fait donc un papier dans le Monde diplomatique à l'occasion des, comment dire, des manifestations contre la réforme des retraites en 2010. Et elle avait donc vu un certain nombre de banderoles dans les manifestations et dans les cortèges parisiens, et notamment ce mot d'ordre, à savoir « mourir au travail plutôt crever ». Et en vérité, cette expression « mourir au travail plutôt crever » était déjà une adaptation d'une expression qui avait été d'un titre d'un film qui avait été réalisé sur la vie et l'œuvre, on va dire, du dessinateur ciné, dessinateur anarchiste, et qui avait accepté qu'on fasse une vidéo sur lui, à condition évidemment de lui donner comme titre « Mourir, plutôt crever ». Voilà. Donc j'avais retenu ce titre parce que je trouvais qu'il y avait évidemment, c'est ça qui est important pour moi, bon, il y a évidemment le côté humoristique, contradictoire, mais en même temps, il y a l'idée sur laquelle il faut résister. Il ne faut pas se laisser manger tout cru, il ne faut pas se résigner, mais qu'il est nécessaire effectivement de résister bon, au système économique, au système politique. Alors, les deux principales raisons qui peuvent expliquer cela, c'est qu'en fait, les objecteurs de croissance, évidemment, sont très souvent critiqués. Il y a des détracteurs, même parmi les gens qui appartiennent, disons, à un mouvement alternatif. Et donc, je trouve aussi que parfois, les critiques qui sont faites, parce qu'on dit de nous que finalement, ce qu'on veut, étant donné qu'on veut une décroissance de la production et de la consommation, donc un peu bêtement, on en vient tout simplement à dire que nous souhaitons le chômage, ce qui est évidemment une bêtise, une aberration totale. Et donc je me disais qu'il était peut-être nécessaire, en tant qu'objecteur de croissance, de montrer qu'on avait des propositions à faire, hein, qu'il était donc nécessaire d'investir le champ de la sociologie du travail. Donc c'est une des motivations principales. La deuxième motivation est liée à mon départ en retraite. C'est-à-dire que j'ai pu vérifier, en quelque sorte, bon, une intuition que j'avais déjà finalement en moi depuis bien longtemps, et qui elle-même provenait d'une observation, d'un constat lucide qui avait été réalisé par André Gortz en son temps, qui disait finalement le vrai travail intervient lorsque nous ne travaillons plus. Et c'est vrai que quand je me suis retrouvé proche de la retraite, j'avais commencé à lire, et j'avais lu d'ailleurs, j'avais fini de lire les deux petits bouquins très, très importants qui s'appellent « Le droit à la paresse » de Paul Lafargue, et « Éloge de l'oisiveté » de Bertrand Russell. Voilà. Et donc je me disais, eh bien, quand je serai à la retraite, je serai paresseux et oisif. Et évidemment, ce ne fut pas le cas. Ce ne fut pas le cas parce que j'ai une vie familiale, je me préoccupe quand même d'un certain nombre d'activités domestiques et encore éducatives, puisque à l'époque, j'avais mes filles qui étaient encore relativement jeunes. Donc, Et puis donc voilà, j'avais des occupations domestiques qui me paraissaient nécessaires. Le partage des tâches, c'est quand même quelque chose d'important aussi dans un couple. Et puis je bricolais, je jardinais, je me suis mis davantage encore à la lecture et à l'écriture. Ce qui fait qu'en fait, j'ai multiplié les activités. Voilà, donc ce sont les deux raisons principales qui peuvent être effectivement associées à ce genre d'ouvrage, voilà, qui explique pourquoi je me suis mis à écrire.
Alors on va rentrer un peu plus dans le contenu hein, de ce livre, hein, « Mourir, oui. Travailler plutôt crever ». Alors ce livre est une critique, on pourrait dire une dénonciation des méfaits causés par le travail sous le capitalisme, souffrance au travail, perte de sens, enfin tu abordes vraiment un certain nombre de dégâts. Hein. Est-ce que tu peux en dire plus concernant ces constats? Est-ce que tu peux revenir aussi sur les causes?
Oui, bien volontiers. Ce que je retire, moi, des lectures que j'ai pu faire, il semble qu'en fait, le travail, alors le travail, bien sûr, le travail est ambivalent, le mot travail est ambivalent, parce que le travail est à la fois, enfin, à mes yeux, à la fois un instrument de destruction de l'individu, de l'homme, mais aussi, c'est ce qui m'a permis de structurer un petit peu le bouquin, mais aussi un moyen en fait de se construire, de se reconstruire. Alors évidemment, pourquoi le travail est-il un instrument de destruction? Parce que à mes yeux, le travail est une invention du capitalisme. Donc évidemment, les hommes ont toujours eu des activités, ont toujours été actifs et créatifs depuis leurs origines. Mais le travail aliéné, le travail marchandisé, le travail en miettes, le travail dévitalisé, le travail subi, ce travail-là, donc aliéné, ce travail-là a été inventé, a été créé en quelque sorte par le capitalisme. Là encore, on peut s'appuyer sur la théorie ou les analyses de Marx, hein, qui démontrent très clairement, de manière lumineuse, par exemple, à travers la théorie de la plus-value, il explique très clairement, il démonte en fait hein, le système capitaliste, et il explique donc très clairement quelle est l'origine de l'exploitation et de l'aliénation. L'homme est dépourvu de désormais au sein du capitalisme, dépourvu de toute action, de tout choix, de tout pouvoir, de décision. Son pouvoir agissant est complètement nié. Et cela donc engendre évidemment donc une soumission, une subordination qui va engendrer des souffrances. Je me suis appuyé dans mon livre sur notamment un travail qui avait été réalisé par le docteur Villermé au XIXe siècle, qui avait enquêté à la manière d'un sociologue, qui avait enquêté donc dans les milieux industriels du nord et de l'est de la France, et qui dénonce et qui décrit en fait des conditions de vie et de travail qui sont épouvantables, des gens, des hommes, des femmes et des enfants qui ont 13 à 14 heures de travail dans des conditions épouvantables, dans le froid, dans le chaud, dans la poussière, dans le bruit, dans la graisse, et qui en plus se doivent de rejoindre le lieu de travail après une heure de marche le matin et rejoindre leur domicile le soir également après une heure de marche. Donc on peut reprendre toutes ces descriptions, hein, descriptions faites par le docteur Villermé. Et on pourrait penser qu'aujourd'hui, finalement, tout ça a disparu, parce que la condition de l'ouvrier, la condition ouvrière, c'est singulièrement améliorée. On nous dit, par exemple, que chez les cheminots, aujourd'hui, conduire un TGV, c'est pas la même chose que de conduire une machine à la vapeur. De sorte que, d'ailleurs, très vite, on en vient à dire qu'il serait nécessaire de revoir aussi le système des retraites des cheminots. Bon, on peut évidemment dire qu'on a amélioré les conditions de travail. Ceci dit, il y a encore beaucoup de souffrances physiques. Il y a encore des travaux précaires, des travaux difficiles, des missions qui sont accomplies dans des conditions particulièrement difficiles et délicates, qui sont même dangereuses, physiquement. Donc il y a encore des maladies professionnelles qui existent. Et puis, s'ajoutent à cela aujourd'hui probablement des maladies qui sont plutôt que des maladies qui font souffrir le corps, mais qui font souffrir des maladies qui font souffrir aujourd'hui l'esprit. C'est-à-dire qu'on a une souffrance psychologique. Et je m'appuie aussi, là, j'en parlais tout à l'heure, sur les travaux de Daniel Linhart, qui explique aujourd'hui que les techniques managériales sont épouvantables, parce qu'on sollicite de plus en plus des ressources émotionnelles. L'individu doit donner tout ce qu'il a sur le lieu de travail. Il s'introduit en quelque sorte dans l'entreprise en se livrant corps et âme, si je puis dire, à l'entreprise. Il doit tout investir dans l'entreprise. On lui confie des missions. Et quand celle-ci est achevée, on lui fait savoir que le travail était, disons, relativement bien exécuté, mais que désormais, il va falloir passer à une autre mission. Donc, tous les savoirs, toutes les connaissances, toutes les qualifications qui ont été requises et acquises pour accomplir cette mission doivent être remises en cause. Donc, elle explique très clairement qu'en fait, les salariés aujourd'hui sont en perpétuelle situation d'apprenti. Ils doivent toujours apprendre. Et apprendre et faire le mieux de ce qu'ils doivent faire, de ce qu'ils peuvent faire pour servir les intérêts de l'entreprise. De sorte qu'elle en vient à dire finalement qu'il y a une espèce de surhumanisation du travail aujourd'hui dans les entreprises, surhumanisation qui pourrait être différente de la sous-humanisation taylorienne, hein, le taylorisme ou fordienne. Donc finalement, elle en vient à conclure que la sous-humanisation taylorienne et fordienne et la surhumanisation managériale aujourd'hui conduisent aux mêmes dégâts, conduisent au même traumatisme. Il y a une espèce de... il y a des souffrances physiques et des souffrances psychologiques, et il y a aussi un déni de reconnaissance qui amène généralement des situations dont on a parlé dans la presse, à savoir, par exemple, chez France Télécom, des suicides sur le lieu de travail.
Vous êtes toujours à l'écoute de Micro Rebelle Hebdo. Micro Rebelle Hebdo est diffusé en direct chaque vendredi de 18h à 19h sur micro-rebelle.fr. Est rediffusé sur les ondes de Radio PFM 99.9, radio associative libre et sans pub, et de Radio Plus 104.3, la radio du pays minier et de l'Artois.
Eh bien, nous allons procéder maintenant à une nouvelle pause musicale. C'est donc toujours de la musique libre. On vous propose un morceau choisi par Luc. C'est Vincent Augustus, Can't Get Me Wrong.
Please handle this side up. You got me upside down. Should only feel this much, but in your liquid I drown. I couldn't put it in a letter. I should've put it in a song. I would've put it in forever, put it in you all night long. So you can't get me wrong, can't get me.
Me, don't put in your stomach, so you can get.
Eh bien, nous allons continuer à évoquer sur Micro Rebelle Hebdo l'actualité à venir, et notamment aujourd'hui, comme la semaine dernière, l'actualité migratoire avec les migrantes et les migrants. Donc il s'agit, hein, on vous en a parlé la semaine dernière, mais on souhaite vous en reparler parce que ça nous semble un événement important. Il s'agit de la marche citoyenne pour les migrants qui a démarré de Vintimille, la Roya, le 30 avril dernier, et qui sillonne la France pour arriver à Londres le 8 juillet. Avec cette marche, c'est tout un réseau de bénévoles engagés pour la cause des réfugiés qui se tissent. Et c'est une démonstration concrète comme quoi les marcheurs ne sont pas à l'Élysée ni à l'Assemblée nationale, mais sur les routes de France, tout profil et toute génération confondue, contre les frontières, pour la liberté de circulation. Nous sommes fin juin, la marche a dépassé Paris et se déroule à présent dans le Nord. Nous voulons en particulier signaler une étape que vous pourrez rejoindre pour indiquer vous aussi votre soutien et contribuer à cette belle initiative. Il s'agit de l'avant-dernière étape, le samedi 7 juillet, entre Gravelines et Calais. Pour participer à cette étape, nous signalons l'initiative de la Ligue de l'enseignement du Pas-de-Calais qui contribue à la réussite de cette dernière étape en faisant partir des cars de 5 points du département afin de faciliter la participation des habitantes et habitants avec des départs des territoires de Saint-Paul-sur-Ternoise, d'Arras, d'Hénin-Beaumont, de Lens et de Béthune. En particulier, les départs en car seront organisés au lieu et horaire suivant. À partir d'Hénin-Beaumont, à 13h30 devant l'Escapade, rue de l'Abbaye. À partir de Liévin, à 14h devant le cinéma Arc-en-Ciel, place Gambetta. À partir de Béthune, à 14h30 au péage, en faisant attention car l'aire de stationnement est en travaux, il faut donc se garer dans la zone commerciale. À partir de Saint-Paul-sur-Ternoise, à 13h15, place de la mairie. À partir d'Arras, enfin, à 14h15, sur le parking de la Ligue de l'enseignement, 55 rue Michelet. Ces départs en car, en début d'après-midi, permettront de rejoindre la marche à 16h à l'angle de la rue Foissé et de l'avenue Saint-Exupéry à Calais pour un moment symbolique, le franchissement des portes de la ville. La Ligue de l'enseignement organise pour l'occasion une soirée solidaire avec le programme musical suivant. Hassan Sudani, c'est du blues, Zakaria, de la musique soudanaise, Manbous, du reggae, Music for All, un plateau métissé de musique des mondes. Le retour est organisé en quart à deux horaires différents. Un quart partira à 21h et le suivant à 23h30 vers les mêmes lieux de départ. Dans l'actualité, Luc, il y a maintenant un reportage que tu as réalisé très très récemment.
Un reportage réalisé hier, réalisé, j'ai envie de dire, presque involontairement et à la sauvette. Parce qu'en fait, je devais me rendre d'Arras à Lens hier en train, en début d'après-midi, sauf que pour pouvoir le faire, j'ai dû passer par Lille et attendre une heure à Lille. Donc comme j'arrivais...
La grève, c'est la grève.
La grève, c'est la grève. Ah, je m'en suis pas plaint. Au contraire, j'ai saisi l'occasion à pleine main. Et comme c'est à peu près à l'horaire où devait commencer la manifestation, voilà, j'en ai profité pour tendre le micro aux quelques personnes que j'ai trouvées là à ce moment-là.
Eh bien, on va les écouter.
Donc moi, c'est Thierry, je travaille à Enedis et ce qui me mobilise finalement, c'est le manque de redistribution des richesses qui aujourd'hui sont captées que par quelques-uns et au détriment de la plus grande majorité de la population.
Est-ce que Enedis, c'est une grève sporadique ou est-ce qu'il y a un mouvement qui se trame dans l'énergie ?
Ah, donc dans l'énergie, il y a un mouvement de fond qui est là depuis, depuis quelques semaines, quelques mois, où les salariés ils sont très axés sur le service public, le maintien du service public tel qu'il est structuré aujourd'hui. On sait qu'il y a des velléités de casser tout ça, alors tant Enedis que GRDF. Mais enfin voilà, aujourd'hui, on est là également sur les questions salariales. Quoi.
Dans un secteur qui a vécu l'ouverture à la concurrence, c'est quoi le constat que vous pouvez tirer à l'heure actuelle, j'ai envie de dire à l'heure où ça va également arriver avec les cheminots ?
Bah, y a rien qui démontre aujourd'hui que la concurrence a amélioré la qualité du service. Il n'y a rien qui démontre aujourd'hui que la concurrence a fait baisser les prix. D'ailleurs, chacun peut regarder le prix ou le prix de ses factures. Hein. Chacun constate que ça a pris 50 ou 60% au niveau du gaz et peut-être un peu moins en élec. Mais il n'y a rien dans le système libéral aujourd'hui qui peut laisser imaginer que ça va s'améliorer en tout cas.
Pensez qu'un retour en arrière est possible ? Est-ce que c'est une des revendications, la renationalisation du secteur de l'énergie en France ?
Le retour en arrière, il est possible à partir du moment où les décideurs politiques feront ce choix, et ils feront ce choix quand les usagers le décideront. Si les usagers ne se mobilisent pas non plus pour défendre la question du ferroviaire ou la question de l'énergie, ça ne changera pas, quoi.
Qu'est-ce que vous pensez du mouvement de grève actuel, du mouvement social, à la fois la grève alternée et l'ampleur que ça prend, dire le mouvement social globalement en France?
C'est compliqué de mobiliser les salariés dans la mesure où les médias sont détenus par quelques-uns. On voit que si c'est une radio associative, on peut imaginer que ça soit pas la même chose. C'est compliqué de faire connaître aux usagers, enfin à l'ensemble des citoyens, les conséquences de la libéralisation, que ce soit du rail, de l'énergie, ou de l'école ou de l'éducation, enfin, c'est aussi dans les tuyaux, parce que les médias ne relaient pas la vraie information, ils relaient l'information qui sert le capital en fait.
Je m'appelle Hervé, je suis fonctionnaire dans la fonction publique territoriale, donc un agent des collectivités. Voilà. Pourquoi aujourd'hui ? Parce qu'aujourd'hui, on est face à une casse systématique des services publics, entre autres, des institutions aussi de l'État, c'est-à-dire tout ce qui est la sécurité sociale, les retraites, etc. etc. C'est tout un système qui... On s'en va vers une paupérisation de la population. En général, c'est aussi, sans oublier aussi, le service public, c'est les hôpitaux, c'est la SNCF, les transports publics. Donc, en fait, tous les services publics qui vont subir, et les ayants droit également. C'est ça, quoi. Il faut montrer qu'on on s'en va vers une dégradation totale du service public en général. La conséquence sera pour la population, déjà, de ne plus avoir de service de proximité, une qualité de service aussi qui va disparaître, et un éloignement de l'État par rapport à sa population. Voilà.
Ça se concrétise comment, ça, au niveau de la fonction publique territoriale et des collectivités, concrètement ?
C'est simple, c'est-à-dire qu'on s'en va vers une baisse des fonctionnaires. Ça veut dire que dans la fonction publique territoriale, ce sont les centres des impôts, les mairies évidemment, donc les départements, les routes, ce qui concerne aussi les routes, autoroutiers, c'est ça, dans la collectivité, les usagers vont subir. C'est aussi les écoles, il ne faut pas oublier que dans les écoles, c'est moins de personnel. La dégradation se retrouve dans le fait que les fonctionnaires disparaissent. Il ne faut pas oublier que c'est 70 000 fonctionnaires territoriaux qui vont disparaître, enfin qui sont prévus dans le programme Macron, quoi. Donc ça aura une incidence directe sur les communes, les départements, les régions, etc. Aussi par une baisse des dotations, ça veut dire aussi que les fonctionnaires sont fragilisés parce qu'on met des contrats à la place, des gens qu'on utilise sur des contrats des fois de moins de 3 mois, voire quelques jours. Donc c'est une qualité et des compétences qui sont perdues pour les services publics.
C'est quoi votre analyse du mouvement social actuel ?
Bon, alors là, je crois qu'on a une conjoncture où tout le monde semble un peu résigné, prêt à subir sans aucune réflexion derrière, sans aucune analyse d'un avenir, quoi. En fait, la seule chose qui compte actuellement, on peut regarder. Il n'y a qu'à voir aujourd'hui, quoi. Je veux dire, il y a plus de prise de conscience du tout. C'est quoi ? C'est le football, c'est ça ? C'est Renault disait l'opium du peuple de France. Bon, le tiercé, ça a disparu. Ah ouais, la Française des Jeux va être privatisée. Donc, on se rend bien compte que finalement, il n'y a qu'une chose qui compte, c'est la télé et puis le Facebook, etc. Quoi. Voilà. Donc, il y a aussi une manipulation des masses derrière qui font qu'ils sont un peu lobotomisés, à mon avis.
Alors aujourd'hui on est le 28 juin, c'est bientôt les vacances, on sait bien que c'est pas très propice aux mobilisations et aux luttes sociales. Quand on voit, ça fait quand même un moment que ça dure, là ça fait 3 mois que ça dure, les grèves, on a l'impression quand même que ça n'a pas vraiment pris, que ça a plutôt tendance à s'essouffler, j'ai envie de dire. Voilà, est-ce qu'aujourd'hui c'est un barreau d'honneur ?
Non, je ne pense pas. Je pense que plutôt qu'on aura un réveil. Quand, je ne saurais pas dire, mais au moment, en tout cas au moment où il sera trop tard, quoi. Je veux dire, maintenant, la grève, bon, c'est un droit qui est de plus en plus mis à mal aussi. Ça coûte, contrairement à ce qu'on peut le dire, on n'est pas des nantis, quoi. On défend notre cause. Quand on le voit sur la SNCF, forcément, il ne faut pas oublier que le verrou de la SNCF, quand il va sauter, ça veut dire que toutes les administrations derrière vont suivre. Il ne faut pas oublier l'exemple de la Poste, il ne faut pas oublier la Poste qui est devenue la banque postale, tout est dit dans la façon de faire, c'est l'EDF, c'est Enedis, ça impacte directement les habitants, ceux qui ont la chance d'avoir un logement aussi. Hein, parce qu'il ne faut pas les oublier, les CCAS et les offices d'HLM qui eux aussi seront privatisés. Hein. Quand ces gens-là vont s'apercevoir que finalement il ne leur reste plus rien, l'APL, c'est un exemple tout simple, quoi, je veux dire, 5 euros par-ci, un peu plus par-là, les compteurs Linky, etc. Quoi. Donc à un moment donné, on risque fort de se retrouver sur une situation un peu comme la Grèce, hein, où on voit les gens que finalement... Bon, je sais bien, ça donne l'impression d'être un test, mais on se demande si le gouvernement n'est pas justement en train d'utiliser ça pour voir jusqu'où la population est capable de subir. Voilà, c'est ça. Et à ce moment-là, la population n'aura plus les moyens de réagir, quoi, en quelque sorte. Voilà, c'est ce que je veux dire. Ouais.
Moi, je m'appelle Eva, en fait, et je suis là aujourd'hui parce que moi, je suis étudiante et je suis là pour défendre un peu la condition des cheminots et puis la condition de tous les travailleurs, quoi, pour les soutenir, parce que quand même, aujourd'hui, Macron, il est à l'attaque de partout. Le futur qu'il a proposé aux jeunes, quand même, c'est une société où il n'y a pas de boulot un peu stable, où il n'y a pas de salaire digne de ce nom. C'est ce qu'il est en train d'essayer de casser chez les cheminots. Ils ont bien raison de se battre. Et du coup, moi, je suis communiste, je suis révolutionnaire. Et je pense qu'il faut que les travailleurs ils luttent pour leurs conditions, quoi, parce qu'il n'y a personne d'autre qu'eux qui le feront à leur place.
J'ai l'impression que les travailleurs ne sont pas hyper mobilisés pour leurs conditions. Comme tu dis, qu'est-ce que tu penses, toi, de l'actuel mouvement social ?
Je pense que ceux qui se battent, ceux qui disent non, c'est eux qui ont raison, quoi. Et qu'il faut qu'on essaye par tous les bouts de ramener nos potes, de ramener nos collègues, de discuter autour de nous. Parce que, enfin, t'entends la télé, c'est quand même démoralisant en permanence, quoi. Ils essayent de nous démoraliser, ils essayent de nous diviser. Ils essayent de dire que, de toute façon, les responsables de la situation, ça serait les migrants. Les responsables de la situation, ça serait l'Europe. Et à aucun moment, ils parlent des patrons. Et à aucun moment, ils disent que on est capable de prendre en main notre avenir en se battant.
Tu l'as dit tout à l'heure, c'est la dernière journée de grève unitaire. Les cheminots ont déjà dit qu'ils poursuivraient le combat pendant les vacances. Ça paraît faisable, sachant qu'en général, les vacances, c'est pas une période très propice aux mouvements sociaux, quoi.
Ça, je sais pas. En plus, moi, je suis pas cheminot, donc je vais pas trop discuter à leur place. Moi, ce que je sais, c'est que même si la loi, elle est passée, de toute façon, les attaques, elles vont continuer en permanence. Et que là, de toute façon, en juillet, en août, en septembre, en octobre, en novembre, les patrons, ils vont donner des raisons de se battre, quoi. C'est quand même, à chaque fois, c'est eux qui nous attaquent. Et donc, faut qu'on réponde.
Qu'est-ce que tu penses de la stratégie de grève qui était un peu inédite ou... la manière dont ça s'est fait ces derniers temps.
Puis les convergences des luttes, il faudrait déjà qu'il y ait des luttes. Bon, là, les luttes, elles sont quand même sur certains secteurs. Elles sont réelles, mais elles sont quand même cantonnées à certains secteurs. Après, les syndicats, ils jouent le rôle qu'ils jouent depuis des années. C'est pas nouveau. Hein, c'est pas pour ça qu'il faut être démoralisé, puisque les syndicats, depuis bien longtemps, ils sont dans le camp de la bourgeoisie, dans le camp des patrons. Nous, notre problème, c'est pas le camp des syndicats, notre problème, c'est le camp des travailleurs, quoi. Donc après, a priori, ça, l'appel qui était comme ça, haché, ça convenait aux cheminots, puisqu'ils ont, en grosso modo, respecté le calendrier. Ils ont appelé dans certains secteurs où ils étaient assez forts pour le déborder. Maintenant, c'est pas... Voilà, la stratégie, elle est ce qu'elle est. Le jour où les travailleurs, ils sont vraiment en colère, stratégie, pas stratégie, ils passeront les barrières et puis ils prendront leur sort en main, vraiment. Nous, on est persuadés de ça, c'est pour ça qu'on est communistes.
Eh bien, notre émission Micro Rebelle Hebdo se termine. Merci de nous avoir écoutés. Quelques informations qui nous concernent, justement. Notez bien la date de notre Assemblée Générale. Ce sera le samedi 7 juillet, donc très prochainement, à 10h, en nos locaux, au 197 bis rue Émile Zola à Liévin. Le matin se tient l'Assemblée Générale en elle-même, c'est l'occasion de faire un retour sur l'année écoulée, une année particulièrement riche en projets qui nous donne de belles perspectives pour l'année à venir. Et cette Assemblée Générale, on la terminera par un barbecue fraternel. L'Assemblée Générale et le moment convivial qui suit concernent bien évidemment nos adhérentes et nos adhérents, mais également nos amis, nos auditrices, nos auditeurs. N'hésitez donc pas à bloquer cette date du samedi 7 juillet à 10h. Pour le barbecue qui suit, Micro Rebelle s'occupe de la viande et des légumes. De votre côté, pensez par exemple aux boissons et aux desserts. Et puis comme toujours, n'hésitez pas à nous solliciter pour des reportages, des chroniques, des débats radiophoniques. À très bientôt donc.
Ce Micro Rebelle Hebdo se termine sur microrebelle.fr et sur les ondes de nos amis de PFM 99.9 et de Radio Plus 104.3. Nous terminons par de la musique libre et je vous dis à la semaine prochaine. Portez-vous bien.
Ce Micro Rebelle Hebdo se termine sur micro-rebelle.fr.
N'hésitez pas à nous contacter en nous envoyant un courriel à contact@micro-rebelle.fr.
Salut à toutes et à tous et à la semaine prochaine.